Amis de Radio Occitanie de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Une semaine qui va être marquée pour nous par un bien triste événement, puisque l'épouse de notre ami le poète chanteur Bruno Ruiz, Cathy Ruiz d'Arras, s'est éteinte. Nous sommes allés à ses obsèques vendredi et je voudrais commencer cette émission pour avoir une pensée pour Bruno Ruiz, notre grand barde de Toulouse, Bruno Ruiz, maître et jeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, la plus vieille académie d'Europe. Nous allons écouter Homme Louve, c'est un poème qu'il a mis en chanson en 1983. Et où il parle de la mer, au fond de la mer, charriant la mort dans ses baïnes au reflux d'éternelles eaux, a fait d'homme louve un homme en peine. Cet homme en peine, aujourd'hui, c'est Bruno Ruiz, et nous pensons beaucoup à lui. Nous l'écoutons.
Car la mer, au fond de la mer, charriant la mort dans ses baïnes au reflux d'éternelles eaux, a fait d'homme louve un homme en peine, qui se voyait lampe tempête, la nuit bourrasque imaginée dans les dérives du cap Horn, au large des îles Orcades. Il arrivait sur cette cale, là où le vent fouettait le sable, à flanc de face et de pérée, grande maligne d'équinoxe, abandonné parmi les algues, au fond, comme il vous appelait, tel qu'en lui-même remouvert, au fond, comme il vous appelait. Dans la villa giflée des houles, les jours d'hiver tristes et froids, sous l'infini balancement de la pinède sylvestrale, homme louve, seul, enfant languide, lisait à l'entrepôt des meubles des romans de Georges Smollett couchés sur de vieux matelas. Corsaire des crozets titans des Caraïbes aux Marquises, ah, quelle vie rêvée moisie entre les pages de ses livres! Dans les jardins du front de mer, luisait le bateau en ciment, la proue aux passes infranchies, couchée des amours ancillaires. Et les pinasses, à leur corps mort, vingt bastingages dénoyés, chahutés par les houles blanches de l'ennui, l'immobilisaient. Et vous voudriez qu'en septembre, loin de la mer, dans une ville, homme louve, la tête bien vide, troue la mémoire de sa vie. Comprenez bien, Jean d'Outre-Terre, homme louve est un esquif chanté, un sémaphore sourd, aveugle, qui gesticule dans la nuit. Quelqu'un qui n'ose dire « je » par « je » sans doute, oui, par crainte assurément qui n'ose dire, ce qui toujours le fait chanter par « je » sans doute, oui, par crainte assurément qui n'ose dire, ce qui toujours le fait chanter par « je » sans doute, oui, par crainte assurément qui n'ose dire, ce qui toujours le chante. Car la mer au fond de la mer, charriant la mort dans ses baïnes, au reflux d'éternelles eaux, a fait d'homme louve un homme en peine.
Voilà, Bruno Ruiz, cet extrait d'un CD qui s'appelle « Après ». La guerre fait toujours rage, soit en Europe, soit au Proche-Orient. Nous avions signalé ici, dans cette émission, un petit livre de poètes contre la guerre, publié aux éditions Caractère, qui nous sont très chères, ces éditions Caractère, 7 rue de l'Arbalète, à Paris, ces éditions... et qui ont été créés par Bruno Durocher. Bruno Durocher qui a passé 7 ans de sa vie en camp de concentration. Alors je vais vous lire un extrait de cette petite plaquette qu'a édité les éditions Caractère. Il s'appelle « Poète contre la guerre, non à la guerre », en gros. C'est avec une couverture jaune et bleue, bien entendu. C'est un petit livre qui ne vous coûtera que la somme de 9 euros et dont tous les bénéfices seront réservés aux associations qui aident les réfugiés ukrainiens. Mais tous les poèmes qui ont été publiés dans ce petit recueil Ils sont extraits d'un projet qui s'appelle le projet Copicla, qui réunit déjà plus d'un millier de pages de poèmes en russe, ainsi que quelques poèmes dans d'autres langues contre la guerre. Voilà. Je vais vous lire un extrait. C'est une dame, une poète, écrivain, traductrice, qui s'appelle Yulia Friedman. Elle est née à Novosibirsk en 1970. Elle est proche des milieux, ce qu'on appelle les milieux underground, donc l'avant-garde de la poésie ukrainienne. Et elle vivait à Moscou, donc la poésie russe, pardon, plutôt. Elle vivait à Moscou, où elle occupait un poste d'ingénieur en physique, vous voyez. Donc on peut être ingénieur en physique et poète. Et Yulia Friedman, bien entendu, a quitté la Russie et est en Ukraine actuellement. Les mousquetaires, maman, les quatre mousquetaires, évitent les brèches et arrivent sur la place. La manche de Porthos reluit et sa cape est usée. D'Artagnan monte son bidet jaune, pâle comme la mort. Athos paraît blessé, sa main a l'air toute froide. Aramis va de cours en cours comme le clair de lune. Éloigne-toi de la fenêtre, mon garçon. Si je m'éloigne, maman, je ne verrai pas le rayon se poser comme un oiseau blanc sur la lame, ni les pavés trembler sur la chaussée, ni l'épée s'élancer, on dirait une flèche. On n'est pas à Paris ici, mon enfant. Recule tant que tu le peux. Quand le bombardement commencera, la vitre se cassera. On va se cacher dans la salle de bain, ou plutôt descendre à la cave. Tu es encore petit et tu n'as jamais failli mourir. Le gamin, prenant sa mère en pitié, lui donne la main. Mais il se cogne la tête au linteau de la porte basse. La mère se hâte. Le choc le renverse dans un coin. Voix mate et funèbre de la sirène. La vitre est brisée. Mais les éclats n'ont touché personne. Le lit est plein d'éboulis et de miettes de verre. La chaîne stéréo a mis le morceau. Les mousquetaires regardent alentour. Un vrai chaos. Peste, comment va le gamin? Dit le cavalier blanc comme un linge. Largue un peu de pain dans le grenier. Famine, répond Peste, tout sourire. Commande pas, on n'est pas à la parade, dit Guerre, jetant un œil par la fenêtre. Quand nous avons libéré l'Ukraine des nazis, la Finlande des hommes à tête de chien, et la Pologne des Martiens, un parfum de fleurs de cocaïne a envahi toute la terre. Et nos tankistes ont respiré cet air magique jusqu'à la défonce. En Lituanie, refuge des escargots galactiques, venus d'Epsilon, Andromédaï, froid d'étoile rouge, et tapis dans les salades et autres plantes, nos bombes ont dû tout aplanir. Nous n'avions pas le choix. L'Estonie aussi, balayée de la carte. Les ichthyosaures, adeptes du culte sanglant de la déesse Astarté, y relevaient la tête et fonçaient vers nous en orbite depuis Centaure Alpha. En Lettonie, nous avons également anéanti tout signe de vie. Que faire d'autre? L'Occident nous a forcé la main. Lui qui, au dire des experts crypto-scientifiques, a propagé là de nuisibles micro-organismes. Tous les peuples sont libres. Nous recevons leur courrier de l'Éden. Tous les animaux aussi, à poils, à plumes, menus fretins. Tandis que Moscou s'étale d'un bout à l'autre du globe, entre deux tornades de sable, dans ce nouveau Sahara. Voilà. On voit aussi qu'elle a été ingénieure, hein, puisque elle parle, elle est aussi à l'aise dans ce qui est très scientifique, la crypto, les experts crypto-scientifiques. Non à la guerre, aux éditions Caractère, une petite plaquette à vous procurer. Je voudrais aussi rendre hommage à des éditions qui font beaucoup aussi pour la poésie, mais pas que. Et là, je vais m'arrêter parce que il s'agit des éditions La Table Ronde. La Table Ronde, eh bien, elle nous offre en livre de poche un véritable trésor. Et il faut saluer ce travail-là, en particulier pour nos jeunes, ceux qui n'ont pas lu et qui vont trouver dans cette collection La Petite Vermillon, qui vont retrouver des chefs-d'œuvre de la littérature. En particulier, un auteur que les jeunes ne connaissent pas, il est mort en 1994. Des vieux comme moi, bien entendu, ont été marqués par l'œuvre de Jacques Ellul. Il s'agit de lui, Jacques Ellul. Jacques Ellul, qui était juriste, il avait un doctorat en droit, et qui a été révoqué par le régime de Vichy. Vous savez que quand, en 1940, quand Pétain a pris le commandement de la France, de l'État français, la République n'en existait pas, c'était l'État français, eh bien, on a envoyé à tous les fonctionnaires, par exemple, on a envoyé un questionnaire pour leur demander s'ils faisaient partie d'une société secrète, s'ils étaient juifs, etc. Et Jacques Ellul, à la suite du renvoi de ce questionnaire, a été révoqué donc par le régime de Vichy. Et bien entendu, vous doutez bien qu'un homme comme lui, un homme de conviction, un homme de courage, un homme d'idées, un de ces intellectuels, mais pas des intellectuels de pacotille comme nous les avons maintenant, non, un intellectuel qui participa activement à la résistance, et quand je dis activement, c'est vraiment en exposant sa vie. Et à la fin de la guerre, donc, dès 1953, donc vous voyez, la guerre finit en 1945, donc quelques temps après, ce protestant convaincu est membre du Conseil national de l'Église réformée de France. Voilà. Et il va mener une œuvre extraordinaire, une œuvre qu'il faut connaître, quelles que soient d'ailleurs nos opinions religieuses, nos pratiques religieuses. Je veux dire que Jacques Ellul, il y a autant à prendre de ce qu'il écrit pour un catholique que pour un protestant. Ça n'a même strictement aucune importance qu'il soit protestant, puisqu'il va parler de ces choses religieuses, de ces faits religieux. Il va en parler en philosophe, en théologien bien entendu, mais surtout en philosophe, et il va publier de nombreux livres qui vont être traduits et lus dans le monde entier, Jacques Ellul. Alors, cette œuvre, il ne faut pas qu'elle se perde. Et c'est pour ça que les éditions La Table Ronde rééditent Jacques Ellul. Et ils ont l'idée très bonne, l'excellente idée de les éditer dans cette collection Vermillon, ce qui veut dire que nos jeunes vont pouvoir, et puis même les moins jeunes, parce que ce sont des livres qui ne prennent pas de place sur une étagère que l'on peut conserver, ils ont un prix évidemment modique, puisque ça va de 8,90 € à 10,50 €, hein, cette collection. Ils vont rééditer donc Jacques Ellul. Et il faut lire donc Jacques Ellul, en particulier L'espérance oubliée, ça, un livre donc très maniable puisque en poche, mais un livre qui fait près de 400 pages, hein, 390 pages, 396 pages exactement, hein, mais qu'il faut lire parce que l'espérance. Je parlerai donc de l'espérance, dit Jacques Ellul, mais ce n'est pas là affaire intellectuelle. Elle est arrivée pour moi par des voies imprévues au cours d'une épreuve sévère par qui, tout, une fois de plus, fut remis en question. Et non seulement dans l'affection la plus personnelle ou dans le sens de ce que je pouvais tenter d'entreprendre, mais aussi dans ce qui faisait le centre de ma personne, ou du moins ce que je crois qui fait le centre de ma personne, cette foi si indiscutable et que je vis si fragile. Voilà, l'espérance, que l'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi, je pense à notre ami Bruno Ruiz, qui dans cette épreuve terrible qu'il traverse en ce moment, d'autant plus que lui-même traverse à titre personnel, non seulement avec le chagrin de la perte de son épouse, mais aussi une santé qui est un peu une santé la sienne qui est remise aussi un peu en question, mais bon, nous avons grand espoir que tout cela va s'arranger. Eh bien, il va falloir que Bruno Ruiz retrouve cette voie de l'espérance. Et cette voie de l'espérance, cette espérance que nous avons peut-être oubliée quand on voit ce qui se passe dans le Proche-Orient, ce pogrom inimaginable qui a eu lieu le 7 octobre, quand on voit ce qui se passe avec cette invasion de la Russie par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cette espérance, on se dit qu'elle est vraiment oubliée. L'espérance oubliée, c'est le titre du livre de Jacques Ellul. L'effondrement des utopies et des totalitarismes, le bilan terrifiant des messianismes terrestres, le règne inhumain de la technique et du marché, marque-t-il la fin de toute espérance? Alors maintenant, oui, y a-t-il une espérance pour nos agriculteurs, puisqu'ils vivent, eux, dans leur chair, ce règne inhumain de la technique et du marché, hein? Non, répond Jacques Ellul, dans ce livre qui s'appelle « L'espérance oubliée », un livre prophétique qu'il considérait comme le plus crucial de ses écrits. Au contraire, sans l'espérance, l'évidence du mal radical pousserait l'humanité au suicide. Le quotidien deviendrait une machinerie intolérable et notre condition tragique tournerait à une condamnation sans retour. Car seule l'espérance permet à l'homme de s'affranchir du mensonge, de s'arracher à ses déterminismes désespérants, de soulever l'histoire. Or, l'erreur fondamentale du XXe siècle aura été de vouloir la séculariser, d'en éradiquer la verticalité, d'ignorer que l'espérance ne trouve source et sens qu'en la transcendance. Généalogie critique du siècle écoulé, de ses rêves et de ses cauchemars, ce livre de Jacques Ellul, L'espérance oubliée, ce livre est d'abord un grand traité, c'est un traité vivant, un traité de morale active, et qui appelle au courage du réel. Le courage du réel, c'est ce qui va nous donner l'espérance. Et on ne peut pas prétendre à cette espérance sans avoir l'obligation de se prêter à ce courage du réel. Voilà, il va falloir se bousculer pour avoir ce courage du réel. Un tout petit extrait. Cette espérance s'exprime dans et repose sur trois attitudes qui ne paraissent pas actives. L'une psychique, l'autre intellectuelle, la troisième spirituelle. L'attente, le réalisme, la prière. Trois formes de ce pessimisme de l'espérance, puisque en présence des tâches pressantes, nous sommes attelés et par l'agitation du monde, l'urgence des situations et des décisions à prendre, la misère actuelle et dont la solution ne peut être renvoyée à demain. Des hommes, l'espérance nous atteste qu'un engagement dans l'immédiat et l'actuel est un non-sens, que le premier pas est de prendre acte de cette impuissance et de la vanité de nos prétendues révolutions et que seule est fondamentalement efficace une autre attitude qui se traduira secondairement dans l'engagement. Voilà. Et il va développer donc ces trois qualités qui sont l'attente, le réalisme Le réalisme, on l'oublie trop, le réalisme. Hein, c'est pour ça qu'on va, on est dans ce chaos, on a oublié le réel, le réalisme, et puis la prière. Voilà. Jacques Ellul, L'espérance oubliée, aux éditions La Table Ronde de La Petite Vermillon. C'est un livre qui vous coûtera simplement 10,50 €. Et puis, deux autres livres de Jacques Ellul. Le premier, c'est Politique de Dieu, Politique de l'Homme. Politique de Dieu est au singulier, Politique de l'Homme est au pluriel. C'est un livre de 304 pages qui vous coûtera 8,90 €. Et à travers un commentaire de quelques extraits, alors bon, il faut avoir en mémoire, bien entendu, le second livre des rois, hein, de la Bible, puisque le philosophe théologien Jacques Ellul va se livrer dans ce livre, Politique de Dieu, Politique de l'Homme, va se livrer à une étude sur le pouvoir et la responsabilité politique. Inutile de vous dire que cette étude est universelle et qu'elle est intemporelle. C'est pour ça qu'il faut lire aussi ce livre. Et les passages choisis qui mettent en scène, donc il a choisi dans ce livre des rois, hein, différents rois d'Israël et de Juda, ces rois qui sont, dans les récits de la Bible, ils sont confrontés à des situations de conflit. Tous les gens de pouvoir sont par définition confrontés à des situations de conflit. Ils sont là pour ça. Et donc quelques choix s'avèrent justes devant Dieu, mais la plupart ne correspondent pas à la volonté divine. L'occasion pour Jacques Ellul, donc dans ce livre, il va développer une thèse. Et qui est une thèse que n'aurait pas renié Barthes, c'est qu'un homme ne devient foncièrement libre que lorsqu'il inscrit sa liberté à l'intérieur de la liberté de Dieu. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'il collabore à l'œuvre de Dieu. Le deuxième livre, c'est toujours de Jacques Ellul, toujours dans la même collection. Là il y a 192 pages, c'est un livre qui vous coûtera 7,30 €. C'est le livre de Jonas. Alors là il faut connaître aussi, bien entendu, il y a une explication quand même, puisque là il y a une préface de Sébastien Lapac, hein, qui est vraiment très très bien faite, qui explique bien, parce que ce livre de Jonas de Jacques Ellul, c'est vraiment un texte atypique, puisque le livre de Jonas, c'est véritablement dans la Bible, c'est comment dirais-je, une espèce de morceau incongru, hein, de l'Ancien Testament. C'est ce livre de Jonas, c'est un des objets favoris de tous ceux qui vont s'en prendre à la Bible et vont être virulents contre la Bible, tant l'histoire que raconte ce livre de Jonas apparaît au premier regard comme un récit, mais alors totalement invraisemblable. Hein. Et pour Ellul, si ce récit a été placé parmi les textes canoniques, parce qu'il a été placé parmi les textes canoniques, c'est-à-dire c'est un récit important, c'est que Dieu y est montré en train de modifier son comportement au fil de sa relation avec l'homme. Alors, le livre de Jonas, c'est un texte prophétique. Et c'est un texte prophétique qui annonce le christianisme. Il faut absolument le lire. Donc, le livre de Jonas, ça éclaire bien quand on lit ce livre de Jacques Ellul, le livre de Jonas, véritablement. Et là aussi, je vous assure que ce que l'on en retient, c'est une formidable, mais alors, formidable leçon d'espérance. Un tout petit extrait. Dans Politique de Dieu, Politique de l'Homme. Qu'est-ce que je vais prendre? La prédication. Oui. Peut-être, il parle aussi des cathares. L'homme a su plonger au fond des abîmes, aller y chercher l'or et sonder l'océan, dit Job. Mais la sagesse, où est-elle? Il pose le problème de la sagesse. Sagesse de l'homme, incomparable à l'imie de tout ce que nous ne sommes pas, cachée sous tout ce que nous faisons. Mais faut-il la créer? Faut-il rejeter tout ce qui est son œuvre? Faut-il conduire le monde à son néant, au cathare, puisque ce néant est la voie de sa résurrection? Faut-il déjà couper la moisson, parce que les fruits vénéneux de la sagesse sont indissolublement liés aux fruits adorables de la même sagesse? Il n'est pas encore temps, dit Jésus, qui retient le septième ange, la sagesse doit poursuivre son œuvre. Sagesse, ordre de Dieu, mais servitude inutile. Voilà, c'est un peu ce qu'il dit. Comment réconcilier la liberté de l'homme et la toute-puissance de Dieu? Alors, pour Jacques Ellul, hein, quand il lui pose cette question, il va trouver tout son sens, donc, dans la réponse va trouver tout son sens dans les problématiques actuelles et la religion aujourd'hui. Donc, il émerge dans de ce livre et de ses réflexions sur la politique de Dieu et la politique des hommes. Une espèce de témoignage particulièrement éloquent de ce que cet immense amour de Dieu qui non seulement crée et sauve, mais veut bien, dans son incompréhensible humilité, associer l'homme à son œuvre. Comme je disais, la finalité en définitive, c'est de collaborer à l'œuvre divine. Voilà, un petit peu de théologie philosophique, Jacques Ellul, en tout cas, il faut lire, il faut que les jeunes lisent ça, c'est accessible maintenant, et ceux qui n'auraient plus gardé ces, et qui voudraient retrouver Jacques Ellul, maintenant, il n'y a aucune excuse, puisque ils sont dans cette merveilleuse édition de poche de la collection La Vermillon, aux éditions de la Table Ronde. Voilà. Alors, ce que dit le poème, nous dit Kenneth White, qui a disparu il y a peu de temps, Kenneth White, grand poète aussi, qui n'est plus là, c'est que si l'homme est riche en mérite, au fond, c'est poétiquement qu'il habite la terre. Bon, ça, c'est ce qu'avait dit, n'est-ce pas, Lerline avant lui. Je voudrais d'abord attirer l'attention sur le fait que le poème ne parle pas d'habiter le monde, comme on dit habituellement, mais d'habiter la terre, c'est important ça. Parce que terre et ce monde ne sont évidemment pas séparés. Disons que la terre, c'est le fondement, et que le monde, c'est ce que les hommes en font. Et on va retrouver en définitive la même idée. Hein? Le monde, c'est ce que les hommes en font. Et ce que les hommes en font, Jacques Ellul dirait, ils doivent en faire ce que voudrait en faire la volonté divine. Il va falloir qu'il collabore à cette volonté divine. Mais dans quel monde vivons-nous actuellement? Alors Kenneth White, lui, il dit, pour le dire sans langue de bois, on vit dans une époque où la politique prend trop souvent des allures d'un vaudeville, parfois violent, où, sauf exception, la culture est un creux rempli de rien, et l'éducation prescrite une catastrophe. Alors, voyez, franchement, hein, la culture, un creux rempli de rien. Est-ce que c'est pas vrai, ça? Il y a même une ministre. Et l'éducation prescrite, une catastrophe. On sait que l'éducation actuellement est catastrophique. Ce n'est pas la fin de l'histoire, nous dit Kenneth White. Et il y a toujours l'espérance, toujours l'espérance. Ne jamais abandonner l'espérance. Ne jamais abandonner l'espérance, même devant Auschwitz. Il y aura toujours assez d'histoires pour remplir les gazettes. En fait, il y en aura de plus en plus. Ce qui prend fin, alors là, il y a de plus en plus. En plus, avec les réseaux sociaux, je vous dis pas. Ce qui prend fin, c'est la fin de toute confiance dans l'histoire. D'où, dans le contexte contemporain, un désarroi profond, tellement profond, qui n'arrive à s'exprimer que par une violence allant d'un révolutionnarisme agité, un punkisme abyssal, le tout entouré de débats, de discussions à n'en plus finir, et de publications multiples dans des domaines séparés, surtout ceux de la psychologie, de la sociologie, de l'économie. sans aucune vision d'ensemble. À l'horizon, une mondialisation, nous en sommes tous conscients, prête à tout broyer, terres et hommes, au nom du seul profit, sous le nom de croissance. Voilà, à méditer, surtout en cette période, avec les événements que nous vivons. Alors, ces événements, nous les vivons, c'est les paysans qui nous les font lire. Moi, qui suis un vieil homme maintenant, quand on a dépassé 75 ans, on est un vieil homme, et j'ai eu la chance de pouvoir être le témoin de quelque chose qui a disparu, c'est-à-dire d'être le témoin de la vie d'une ferme dans l'Ariège qui vivait dans les années 50, puisque moi j'y étais l'été, j'étais là en pension dans cette ferme dans les années 50. Elle vivait exactement comme au début du XXe siècle. Il n'y avait pas de tracteur. On allait labourer les champs après avoir mis le joug à deux bœufs, à les avoir aspergés de bleu de méthylène à cause des mouches, leur avoir mis un voile pour qu'ils ne soient pas non plus embêtés par les mouches. Il n'y avait aucun pesticide. Et puis, c'était une famille. On a parlé de Jacques Ellul tout à l'heure, qui est un protestant. Mais c'était une famille de protestants, puisque cet Ariège, le canton du Mas d'Azil, a été partagé 50-50% catholiques, 50% protestants. C'était une famille protestante. Ils étaient 16 à table, 17 avec moi. Voilà. Et donc, j'ai pu voir ce que c'était cette paysannerie à ce moment-là. Et maintenant, savez-vous que cette ferme, aujourd'hui, elle a été reprise par quelqu'un qui a fait une monoculture, la monoculture du tabac, inenvisageable avant, c'était inimaginable, une chose pareille. Voilà ce qu'est devenu notre agriculture. Voilà. Alors, j'ai choisi un poète pour finir cette heure qui nous est imparti pour parler un peu de poésie. Et là, nous avons un peu dévié parce que on a parlé un petit peu de Jacques Ellul, mais il fallait parler de Jacques Ellul. J'ai choisi notre ami Gilles Lade. Gilles Lade, qui a fait paraître aux éditions Alcyone, Pays perpétuel, et un autre, également toujours aux éditions Alcyone, Le poème recommencé, à lire absolument. Et avant, qui avait fait paraître aux éditions Le silence qui roule, ouvrière durée. Alors, Gilles Lade, c'est un poète qui est né en 1949, hein, il a presque mon âge, et à Figeac. Il a été professeur de lettres jusqu'en 2011, mais il a passé une enfance, une adolescence, et qui avait été partagé entre la région toulousaine et le Quercy surtout, dont les paysages marquent son imaginaire. Alors il a beaucoup voyagé en Europe, pardon, particulièrement en Italie, excusez-moi, et il est auteur de nombreux ouvrages de poésie. Alors, ces ouvrages de poésie, pourquoi je les choisis aujourd'hui? Pour deux choses. D'abord parce qu'il fait partie du comité de rédaction de la revue Encre Vive, qui se continue, c'est-à-dire que la revue Encre Vive existe toujours. Elle a été reprise par Éric Chassefière à la disparition du très très regretté Michel Cozem. Et donc, il fait partie de ça. De cette équipe d'Encre Vive, qui a beaucoup de mérite, cette équipe d'Encre Vive. Et puis, c'est un poète de la terre. La terre! Oui, Gilles Lade, c'est un poète de la terre. Alors, bien entendu, il ne sera pas dans les collections de Bruno Doucet, que sais-je, etc. Dans tout ce qui fait la mode de la poésie aujourd'hui, Gilles Lade. Mais il faut le lire, parce que ces poètes de la terre, il y avait Jean-Louis Clarac la semaine dernière. On peut dire aussi que Jean-Louis Clarac, c'est un poète de la terre. Il vient, lui, des Corbières. Il est à Aurillac. Il sait ce que c'est que la terre, lui aussi. Et donc, Gilles Lade, c'est un auteur de nombreux ouvrages en poésie. Et dont je vous ai cité les derniers. Et pour lui, chaque nouveau recueil, c'est une aventure, c'est une impossible sans une certaine amnésie, une fois franchi le rideau de verre du précédent ouvrage. Aussi, c'est une œuvre continuée, celle de Gilles Lade, celui d'un homme qui regarde, qui n'arrête pas de contempler le monde tel qu'il est, en particulier ce monde du Quercy, dont il ne peut, je dirais, détacher son regard émerveillé. Alors, il est temps de donner voix à l'obscur travail de libération qui s'accomplit, poème après poème. Chacun des poèmes de Gilles Lade, en particulier dans ce recueil aux éditions Alcyone, le poème recommencé, c'est le titre du recueil. Chacun de ces poèmes, effectivement, est recommencé. Tout d'abord, dans la continuité de son dessin poétique, de sa posture poétique, mais aussi, il faut qu'il atteigne au plus près de l'intuition ou de l'image qui le suscita. Il y a là quelque chose, une posture et un dessin poétique qui est, à mon avis, totalement parallèle, mais presque calqué sur celui de Michel Cozem. Voilà, c'était aussi un poète de la terre, et chacun des poèmes de Gilles Lade qui nous échappe ou qui ne nous semble prédestiné, il contribue à dessiner une mystérieuse ligne de fait entre la permanence et la transmutation. Voilà, permanence, un monde où on va retrouver ce qui est éternel en définitive, ce qui est permanent, et c'est ça en définitive le monde. C'est toujours, il y a toujours quelque chose de permanent, quelque chose qui reste. Et en même temps, eh bien, il y a une transmutation permanente, un changement de tous les instants. Voilà, je vais lire le pays perpétuel, les extraits du pays perpétuel, puisque c'est le dernier livre de Gilles Lade. Hein. Alors, dans ce livre, pays perpétuel, alors voilà ce qu'il dit dans sa dédicace, c'est intéressant, donc il dit « Ces moments volés à l'amère actualité pour une actualité perpétuelle. » Voilà, une actualité perpétuelle. Voilà ce qu'il met dans la dédicace qu'il m'a faite amicalement, etc. Voilà. Une actualité perpétuelle, c'est ce qu'il va fixer dans le poème Gilles Lade. Hein, Gilles Lade. Alors, tout ceci, pays perpétuel, eh bien, il prend tous les mois de l'année. Voilà. Et il y a des poèmes pour chaque mois de l'année. Chaque mois de l'année. Donc je vais, comme il nous reste peu de temps, je ne vais pas pouvoir certainement prendre tous les mois, mais je vais essayer de vous en donner quelques-uns. Alors, on va commencer par le mois de décembre. Décembre. Le jour bas continue, les nuages s'ouvrent, sous la poussée d'un bleu paisible, des murs s'évident, fouillés de lierre et de mousse. Immenses sont désormais les arbres, scellés par le ciel. Des aboiements talonnent la douce urgence des sonnailles, le bruit du sang s'obstine sur le front du silence. La nuit prend corps, ferme les yeux, tu la verras grandir comme une femme dans sa paix. Tu vas, allégé d'obscur, rachetant les paroles oubliées, manquées. Tes pas sonnent le long du chemin retrouvé, alors qu'un nuage sombre cède à la lueur du soir. Vaste immobilité du monde. Les arbres sont au plus haut d'eux-mêmes, L'idée du vent ne s'approche pas. Les nuages ne veulent pas se déchirer davantage. Ils donnent du bleu comme la fermière du grain. L'horizon s'ouvre des chemins dans les haies tranchées comme des créneaux. Une pente rase invite à partager son domaine avec tout l'espace et tout l'avenir. Même l'absence des humains et des animaux n'est pas un chagrin, car les pelages et le sang hibernent au plus près de soi. 3. La peine soleil traverse les genévriers. Seul le sanglier outrepasse leur rameau. La rosée nous rejoint en poudre de diamant. Quelques herbes nées dans l'été indiquent les souffles. Le jour s'élargit, s'empare des arbres, âpres de naissance, éclairés d'éternel dans la lande. La paix se donne à l'infini, mais seule la marche en déchiffre le sens. Une ruine protège l'avenir de son âme intacte. Nous allons changer de mois et nous allons passer... Nous sommes en février, mais nous allons passer en février. Février, Gilles Lade, pays perpétuel, perpétuel. 1. Une hotte plus grande emporte les nuages. L'homme rejoint la cour d'enfance à l'écoute du bruit franc de l'avion. La sève retrouve un saignement clair à la cassure des rameaux. La mémoire des saisons, des belles coutumes, vient briller comme un cuivre fourbi. On sera bientôt passé des personnages au crocus, sous la veille des toits. Des fleurs de sentier seront visitées plus tard dans le beau temps. Une photo d'enfant refait mémoire au hasard des chambres. 2. Ce sont de nouveaux bois, clôturés d'une mousse ensoleillée. Un chemin plongeant devient la liberté. Quel autre but que le soir attisé de nuit? L'immobile dresse une flamme étrange, le regard veut voir par-delà les hameaux, les troupeaux. Un cercle de pierres et de buis propose un instant la demeure, mais il s'agit d'aller lorsque le corps noyé s'apprête à donner la réplique au soleil, à prononcer la fin des arbres noirs. 3. La pluie tombe du brouillard. Une grange s'est inscrite dans les gris de l'ouest. Le calvaire s'éclaire d'un chêne, vaste comme l'arbre des lignées, jusqu'au siècle sans écrit. Les voitures passent aveuglées de lointain. Tout n'est que bruit d'absence. L'été revient à la mémoire, comme un songe avant l'éveil. Un ruisseau part au secret des pentes, puis continue comme une anguille ou comme une famille de canards sauvés par la pénombre. L'eau s'avive du vert des prés, grâce rendue au mouvement de vie qui saisit le vieillard sur le chemin du fleuve. 4. Les brebis, au ras du soleil, happent l'herbe rousse. Les arbres sont dans la fleur de l'élan. Quelques cris d'oiseaux passent à travers les sonnailles. Un corbeau veille sur la courbe du jour. La lumière montre à neuf les maisons, après la neige et les vies. À l'angle des champs, des dalles verticales scellent la paix. Le grand chemin de village à village attend les familles en joie, marchant de front. Oh, le silence étale aux mains du batelier damné. Voilà. Nous allons passer en avril, tiens. Avril. 1. Des arbres ronds vivent de nouveau. Déjà les prés frémissent comme des pelages.
la neige au loin demeure le temps que la rejoigne le soleil. Dans les pacages, le gris s'efface. Invisible victoire de la sève sur le sec. Bientôt, les charpentes noires des garennes deviendront canopées. Les murets sont en sursis d'apparaître en vue du très lointain encore chèvrefeuille. Quelques brebis soudainement sont là, à la faveur de la plus large vue. Le regard trace l'impondérable espoir sur le bleu sans limite. Alors voilà, on voit bien Gilles Lade hein, qui parcourt ce pays perpétuel qui est pour lui le Quercy, qui connaît comme sa poche, mais qui l'étonne tout le temps, le fascine tout le temps, le racénaire tout le temps. Et il en connaît tous les détails et il sait ce qu'il va se passer. Il sait que le paysage change, mais il sait comment il va changer. Et puis, cette contemplation, cette sérénité qui le gagne dans cette contemplation de ce pays, en définitive, ce pays qui se régénère comme les saisons, donc ce pays perpétuel, eh bien, il va l'amener à une véritable vie spirituelle. Le regard trace l'impondérable espoir sur le bleu sans limite. Voilà. On va retrouver l'espérance dont on parlait là, avec Jacques Ellul. C'est la même chose. Je continue toujours mois d'avril. 2. Le soleil descend comme un éparvier de beau temps. Le silence est glorieux, modeste et fort. Les fleurs des arbres et de la terre ont le même langage. Le bois en tas prophétise des bonheurs d'hiver. Même le chêne, immense, à contre-jour, ne montre plus que des jeunes feuilles. Une nouvelle route invente la vallée solitaire de splendeur. Un troupeau brun et blanc occupe la lumière que fait en fuyant le jour. Le hou s'impatiente dans les fourrés. Une grande semaison d'arbres conjure les ravins. 3. De belles fleurs très haut annoncent le cimetière alif. Les chênes charpentés de force titanique inscrivent leurs feuillaisons diaphanes. Un corbeau seul dans le pré n'est que lumière insaisissable. Les nuages si fins dans le beau temps sont traînes de mariée. La maison est peut-être vide, au bout de la marche sans prix. Seul l'églantier fleurit, fidèle, au bord du précipice, dans le vent vivace. L'aplomb parfait du village répète le profil crevassé des falaises. La lumière les sculpte heure par heure et dédie ses œuvres au jeune homme venant de la vallée. Nous en allons aller au mois de juillet. 1. L'horizon de tant de soleil et de tant d'arbres peine à retrouver les landes. Le jaune de joie écrit dans l'impatience du jeune âge. Juillet formait des lointains, un feu de clarté jusqu'à la Toussaint. De hauteur n'avait que le bleu, les rouges élytres, l'épine, le thym sauvage et l'herbe des souffles. Le chemin se lustrait d'infini, longeait la sueur des bœufs et la roue résignée. Le jour était si grand que la nuit le célébrait d'étoiles, comme une aïeule riche d'enfants, ouvre grand la cour sur les cris et les jeux. L'orage exaspérait l'arôme des genévriers, les tourmentait de grâce, de gazouillis becquetant l'eau crépusculaire. Le silence rebroussait les enfants vers les granges régénérées de souffle. Voilà, nous allons finir de ce recueil par ce texte. As-tu regardé l'insigne maison et les lieux du poète? Le vent parcourt les chemins et les chaînes. Tu reconnais ton ancien passage au champ aboli par l'hiver, à la cabane de pierre qui n'est qu'un tas aveugle. Une feuille tombe à tes pieds, la dernière à rejoindre l'humide. Un buis demeure dans la niche d'un fourré comme un chevreuil vigilant. Noël, chaotes dans ta mémoire, avec tes larmes de joie de l'enfance, l'on a tant fait pour que tu vives et puisses dire, tu mets le cap à l'inconnu, en quittant la vue du village, rajeuni de soleil, au fond de la vallée. Gilles Lade, Pays perpétuel aux éditions Alcyone, et également Gilles Lade, Le poème recommencé aux éditions Alcyone. Cela vous coûtera 21 et 20 euros respectivement. Et puis, très beau livre aussi de Gilles Lade, Ouvrière durée, aux éditions Le silence qui roule, 15 euros. Voilà. Et puis, juste pour finir ceci, pour l'avoir trop vite écrit, le sens du poème s'est perdu comme un filet dissous dans la mer. Quel nouveau chemin permettra de s'ouvrir la nuit, de franchir le frisson d'aurore, d'aimer la belle roche et le buis caressant, l'arôme de l'enfance et les puits d'un visage doucement douloureux comme les vraies larmes. Gilles Lade. Claudez-moi, nous vous souhaitons une excellente semaine. À l'écoute de Radio Occitanie, nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.